Vous écoutez
RMC.
RMC, 21h30.
L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, bien sûr, c'est l'after avec vous au 32-16 sur RMC Sport News, bien sûr, Jérôme Roten, Daniel Riolo. Ils sont là, foot international maintenant, dans l'after. Simonet Rovera est là, Simonet, bonsoir. Salut Simonet.
Qu'est-ce qu'il fait, Simonet?
Simonet, alors ça, je me prends toujours un vent quand ça arrive, ce genre de choses-là, tu vois. On me dit en régie, ils sont là, tout le monde est là, Simonet est là.
Eh ben non.
Puis en fait, tu l'accueilles, puis. Simonet Rovera est là, Simonet, bonsoir. Et ben voilà, deuxième vent, merci la régie. Alors il y en a un qui est là avec nous physiquement ce soir.
Moi, il est beaucoup à Paris.
Ouais, souvent à Paris.
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, peut-être une petite aventure ou chose.
Ouais, une petite aventure, mais
c'est Fred Hermel,
pas comme vous croyez. Hola Ticos.
Salut Fred.
Ça va? Moi j'aime bien ici parce que c'est réfrigéré, il y a des grands et grandes télés, il y a des amis tout bronzés en plus, donc je suis bien, voilà. Puis je t'avais pas vu la semaine dernière quand j'étais venu pour le tirage au sort, comme t'étais à Francfort,
Oudermann, oui, machin. Je suis allé me faire ouvrir en deux à Francfort.
Ouais, bah voilà, bah, je dis, bah, faut que je revienne pour voir Gilbert, quoi.
Bah c'est sympa.
Bah voilà.
C'est sympa. Simonet est-il arrivé parmi nous?
Simonet.
Moi j'étais toujours là après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Oui. Tu sais, il y a un bouton, t'appuies on
ouais,
et ça marche.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus
mais facile. Mais non, mais j'avais appuyé. Non, mais après, c'est pas ma faute.
Mais en fait, bon. C'est normal. Tu viens d'arriver en Italie, t'es correspondant à l'étranger, t'as ton matériel chez toi.
Oui.
Donc, faut que tu t'arrêtes.
Fais des erreurs.
Faut, ouais, c'est normal, tu sais, faut pas.
Ça arrive, hein.
Bon, ok. Ciao, buonasera, bonsoir.
Ouais.
Alors.
Fred, est-ce que tu as raconté qu'est-ce qu'on a fait pendant les matchs du Francfort, nous?
Ah, parce qu'on était mangé dans un resto italien où Simonet arrive, c'est le parrain, quoi, tu vois.
Ah bon?
Attends, la musique, t'es.
Donc là, vous aviez la plus grande équipe de France qui joue, vous regardez pas le match.
Non, non, non. On avait fait mettre les matchs au restaurant.
Exactement, ouais, on l'a regardé.
C'était où?
Comment il s'appelle ton resto? J'ai oublié le nom.
Bah, je peux pas faire la pub comme ça.
Bah, si, on peut.
Bon, dans quel arrondissement, quoi?
C'est à côté de Pont de l'Alma.
Très bien, parce qu'il va pas dans les quartiers pourris, Simonet, attention.
C'est très très bon.
Mais c'était très bon. Très bon. Non, t'as pas. Resto italien, t'aimes pas la bouffe italienne, c'est pas ton truc?
Moi, je suis mon cuistot italien à la maison.
Ça, c'est clair. Non,
Daniel,
personne ne fait mieux que moi, donc un resto italien.
Je vais vous faire la gouvernante qui lui fait à manger.
Je vais vous faire la gouvernante, c'est moi, tu sais que j'adore
ça. Ah,
c'est toi. Ah, mais tu savais pas ce talent que j'ai?
Non, bah non, j'ai aimé découvrir. Le meilleur
pack, ça se mange à la maison.
Tu vas le découvrir bientôt.
Je vais vous faire une révélation. Ce que Daniel préfère, c'est les sushis.
Non, ça non.
Non. Trop bon fruit pour toi.
Non, ça c'est
trop
bon. Oui, ça c'est pas pour moi, non. Ça.
Ah quoi, les sushis, ça va
pas
quoi.
Pas toi, pas comme ça.
Non, par contre, pour un Italien aimer Pizza Hut, moi ça me.
Ouais, ça m'a étonné moi aussi.
Ouais, t'as mangé dans un Pizza Hut?
Ouais. Non, non plus. Ouais.
Non, là, la dernière fois, tu nous as étonné avec Jérôme.
Je pousse la porte, je me brûle les mains.
Bon. Messieurs, si vous êtes là, avant notre débat qui va arriver dans quelques minutes, parce que dans quelques minutes, Julien Laurence et Paulo Breitner vont arriver pour ce grand débat à la fois philosophique, sportif, politique et historique. Quel est le plus grand pays de football, hein? Voilà, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, restons sur vos sélections nationales du jour. L'Espagne, Fred, mène toujours face à la Roumanie 2-1. On est quasiment à la fin du match.
Oui, 90e minute, 2-1. Mais c'est
fini,
un résultat,
la Roumanie pousse là, depuis tout à l'heure.
Qui est un peu ridicule pour l'Espagne, parce qu'avec une telle domination, notamment en première période, ouais, avec 6 arrêts décisifs du deuxième gardien de Nyon.
Ils sont à 10, hein?
Oui, ils sont à 10. Enfin, c'est-à-dire, j'adore l'Espagne, c'est très beau à avoir joué. Simplement, il y a un petit point de suffisance qui risque encore ce soir de leur coûter cher.
Oui, ils peuvent se faire égaliser, pourquoi pas. Et l'Italie a joué en Arménie tout à l'heure en début de soirée. Alors, ils ont un peu tremblé, les Italiens, ouais, mais au final. Au final, c'est passé. Attends, Simonet, avant que tu prennes la parole, il y a un but chez les Espoirs, Jean Baumel.
Exactement, avec un but signé par un nouvel entrant, c'est Hudson Edouard, le joueur du Celtic. Donc 2-0 pour les Bleus, et à 12 minutes de la fin, pour info, Malocu est sorti.
Ah ouais, direct au vestiaire.
On me demande sur Direct Studio, est-ce que c'est le cousin de Monconduit?
Ah, Thomas est peut-être dans les tribunes.
Bon, Jean, je t'embrasse, mon ami.
Tu pourras enquêter.
Salut, mon Fred. J'espère que tu vas monter dans le Nord, quand même.
Hein. Bah, non, je repars à Madrid, là, demain.
Oh là 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 là, la petite combinaison des Roumains, la
grosse Roumaine. Ils vont se faire avoir, mais c'est de leur faute. Trop de suffisance. À un moment, ça reste un match de qualification, ça reste un match compétitif, ça reste un match en Roumanie, à l'extérieur.
C'est pas mal joué, ça, hein.
Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais comme il y a un bon gardien maintenant en Espagne, puisque Derrer enfin a été mis sur le banc, et c'est Kepa Arrizabalaga, le gardien ex Bilbao aujourd'hui de Chelsea, et ben là il a pas fait l'erreur qu'aurait sûrement faite Derrer.
Alors, raconte-nous l'Italie, Simone, là aussi match officiel en Arménie cet après-midi.
Bah, alors,
oh, le 2-2. Très... Oh, c'est pas vrai, miracle. Oh là là là.
Vous avez vu la réaction de Kepa Sabalaga au pied.
Incroyable.
Bah voilà. Oh là 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 là.
Les gens qui doutaient encore, parce que moi, je me souviens, le nombre de fois, je me suis fait insulter.
Pourquoi du gardien?
Parce que je trouvais que De Gea était trop léger et qu'en Coupe du Monde, il a rien fait, etc. Là, il y a un gardien qui est extraordinaire.
Non, j'ai tenté deux fois de lancer Simone, hein, et puis deux fois vous lui avez coupé la
tête. Mais c'est pas notre faute, hein.
c'est énorme pour les Roumains.
Donc je recommence. Simone raconte sa victoire italienne en Arménie tout à l'heure.
Le match de la Roumanie et de l'Espagne était beaucoup plus intéressant, je pense.
Ouais, non,
c'était vraiment un match décevant de l'Italie qui gagne après un match mal maîtrisé. À la fin du match, on a eu droit à l'explication que les joueurs de l'Arménie sont plus prêts physiquement par Roberto Mancini, qui me semblait un peu une excuse banale pour dire qu'on n'était pas au niveau. Très très bidon. Les joueurs qui étaient plus honnêtes, mais aussi un des meilleurs sur le terrain, qui était Emerson Palmieri, latéral gauche de Chelsea, a dit ils ont joué mieux que nous. Et ça a été vrai pour beaucoup de la première partie.
Après, ils ont joué mieux, 22% de possession, la moitié de tirs, 4 fois moins de passes.
Non, mais la
c'est toujours un peu relatif, quoi, quand même.
Non, mais la première partie.
On a bien vu qu'ils ne se sont pas baladés, mais de là à dire qu'ils ont mieux joué.
Non, mais la première partie du match, les premières 15-20 minutes, l'Italie était vraiment en difficulté. L'Arménie marque le premier but.
Après, ouais, sur un contre.
Oui, mais sur un contre, mais l'Italie n'arrivait pas à garder bien les ballons devant. Belotti a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans son match. J'ai l'impression que quelqu'un n'est même pas rentré. Je pense à Bernardeschi. Chiesa, je l'ai trouvé un peu faible devant. Et l'Arménie a été réduite à 10 à la fin de la première mi-temps. Donc l'Italie, oui, arrive à gagner en fin de match, marquer aussi le troisième but. Mais globalement, on peut pas être satisfait. Après, on oublie ces matchs. 5 matchs, 5 victoires. Globalement, sous la régie de Mancini, cette Italie fonctionne bien. On a vu encore quelque chose d'intéressant au milieu de terrain, un bon Marco Verratti pour moi, et Belotti qui au final a été décisive. Mais
il en a mis deux, non, ça?
Oui, le deuxième a été donné comme contre son camp du gardien. Ouais. Donc ça reste un but de Belotti et un but annulé pour hors-jeu aussi, mais qui n'était pas... Il n'est pas au jeu, mais bon, ça va pas rester dans l'histoire. Globalement, l'Italie, on espère de voir quelque chose de mieux face à la Finlande, mais les boulots étaient faits pratiquement. L'Italie peut être qualifiée en octobre. Si elle gagne les prochains deux matchs, l'Italie peut être déjà qualifiée pour l'Euro. Donc, globalement, une Italie moyenne, mais qui a fait son bon résultat. Et malheureusement, un Verratti qui est toujours mieux en sélection a pris un carton jaune.
Bah, il pourra pas jouer le prochain match. Ouais.
Et donc, il pourra pas jouer le prochain match.
Bon, contre qui le prochain match?
Finlande. Dimanche?
Oui,
dimanche soir. Ouais.
Ah, Finlande, il y a le fameux buteur qui cartonne là, en ce moment.
Pouki.
Ouais, bon, bah attention. Donc, rien de plus sur l'Italie, Simone. Bon,
okay. Les commentaires pour dire.
Non, là, toujours l'équipe un peu jeune, hein, c'est ça?
Oui, avec Barella, Verratti et Jorginho au milieu de terrain, devant Bernardeschi et Chiesa avec Belotti. Donc oui, une équipe beaucoup plus jeune que d'habitude. Mais les commentaires d'après-match, il y avait sur la chaîne qui diffuse en Italie, c'est la RAI. Donc entre les commentateurs, il y a Paolo Rossi, champion du monde de Ballon d'Or, disait « Ah, on a vu un peu que manquait Chiellini derrière ». Donc on arrive à regretter quand même l'absence de Chiellini, 35 ans, et toute l'expérience qu'il a. Si on arrive à regretter Chiellini sur un match comme ça, bah, écoute, ça manque vraiment quelque chose à niveau global, je pense.
C'est fini entre la Roumanie et l'Espagne, Fredo.
Oui, victoire dans la douleur des Espagnols, dans la douleur surtout en fin de rencontre. 2-1 en Roumanie, but de Ramos sur pénalty et de Paco Alcácer, et c'est un but d'Andone à la 59e. C'était un match que les Espagnols ont failli ne pas gagner, mais à cause de leur suffisance, parce qu'ils étaient tellement supérieurs, notamment en première période, que par moments, en défense, ils ont été assez lamentables, notamment sur le but roumain, et puis l'expulsion de Llorente Juste, hein, parce que l'attaquant roumain partait seul au but. Voilà, une Espagne, mais qui est finalement qui a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que techniquement supérieure à n'importe quelle autre équipe, mais parfois des relâchements coupables au niveau défensif, au niveau de la concentration. Et puis quand même, parce qu'il y a eu un nombre d'occasions inqualifiables en première période, et il manque quand même ce tueur, quoi. Parce que Alcacer en a manqué, il a marqué ce soir, mais il en a manqué beaucoup. Dès la 35e seconde, Rodrigo Moreno a manqué une occasion, voilà, seul face au gardien. Donc, il manque encore un killer.
Tu le regrettes, ton Raoul, hein.
Ouais. Ça date un peu quand même.
Raoul était killer, mais sauf que c'est une Espagne qui ne gagnait pas. Non, je pense un Fernando Torres, et puis un David Villa surtout, quoi. Voilà. Là, ils n'ont pas retrouvé vraiment de super buteurs.
Ça valait pas Raoul, tout ça.
David Villa, c'est le meilleur buteur en exercice de la sélection.
Si je jouais, je crois, oui. David Villa. Ouais, c'est. Puis.
J'adorais ce joueur. Extraordinaire.
Magnifique. Puis un bon mec en plus, quoi. Donc, ce qui ne gâche rien.
Bon, c'est vrai que c'est des matchs, il n'y a pas un quart d'heure de débat à faire dessus. Enfin,
non.
Ah, c'est toi qui as dit que l'Espagne internationale était formidable hier, alors que des gens ont retrouvé trace où tu disais le contraire.
Non.
Sache-le.
Ah bah sache-le. Amène les preuves.
Alors que.
Tu les as rêvées, quoi.
Amène des preuves.
Bah oui.
D'accord, ne t'inquiète pas.
Ah oui.
Je vais mettre un avocat sur le.
Je coup fais comme toi.
Pour aller piquer sa conviction.
Tu sais, moi, je la connais par cœur, la technique. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. La vieille technique. Ah bon? Vas-y, donne-moi les matchs.
Vas-y, donne-moi
les joueurs.
Donne-moi.
Ouais. Donne-moi. Et là, tu lui sors un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Tu fais, ouais, bon, bah, c'est trois joueurs, ça veut rien dire.
Non, ouais, c'est ça. Voilà, il est solide.
À chaque fois que je le fais, d'abord.
Trop fort.
À chaque fois que je le fais, d'abord, je peux répondre.
Trop fort. Déjà, on t'a cerné. T'es mort.
Vous ne pouvez pas répondre.
Mais t'es mort.
Ça tient pas debout. Mais non, si vous pouvez pas répondre, ça tient pas debout. Mais non, mais il est marrant, lui.
Villa.
Si tu peux pas répondre.
David Villa. Bah attends, mais c'est quand son dernier bon match à lui?
Bah David Villa, c'est un super attaquant, c'est le meilleur buteur de la sélection.
Ah bah juste cite-moi les bons matchs de David Villa.
Mais il y en a des tonnes. Un match du Mans, je sais pas.
Non mais attends, toi par exemple, mais il y en a pas.
Ben voilà, il y en a pas. Non mais Daniel, non mais le problème c'est que Daniel vient de dire que Villa était un grand joueur. Donc moi,
David Villa, c'est un super attaquant.
C'est un exemple.
Non mais c'est pas comme exemple.
C'est un exemple.
Il est voilà, on doit dire Villa, tu as été bon.
Bon, on va démarrer notre grand débat.
Ouais, ça c'est bien ça.
On va démarrer notre grand débat. Il n'a rien à voir avec l'actualité du moment, mais tout le monde va pouvoir participer. On va d'ailleurs accueillir Paulo Breitner et Julien Laurence dans quelques instants. Mais finalement, quel est le vrai pays du football, le plus grand? Voilà, reconnu comme tel. Chacun aura son avis. Alors, évidemment, le débat promet d'être un petit peu enflammé, puisque
là,
chacun est convaincu d'avoir raison, bien sûr.
Surtout moi.
Évidemment. On en débat dans l'after dans quelques secondes avec vous. Et on vous attend au 32-16, bien sûr.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rantanel, Daniel Riolo est là, Simone Rovera, Fred Hermel, avant d'accueillir nos autres drôles de dames, un but chez les espoirs, Jean Bobel, France Albanie.
Et le troisième et le doublé pour Hudson Edouard dans les dernières minutes à la 89e avec un super travail de Moussa Diaby, donc côté droit, le centre rentré, poteau rentrant. Donc 3-0, petite balade en fin de match pour les Bleus, on est dans le temps additionnel, il reste une 30 à jouer.
À tout à l'heure, Paulo Breitner nous rejoint, salut Paulo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. 1-1 entre l'Irlande et la Suisse.
Ah oui, une des dépendances de Polo.
La Suisse, sa circonscription.
Un pays satellite.
Ouais, mais pas tout. Que la partie germanophone.
Oui, mais c'est celle qui compte pour lui.
L'autre, c'est.
Est-ce qu'il existe une autre Suisse, à part pour les cures thermales?
Ça, faut demander à Polo.
Polo.
Oui, un petit peu l'Italie aussi.
Comment ça, un petit peu d'Italie?
Le sud de la Suisse.
Lugano, oui, tout ça.
Pour toi, voilà. ça ne compte pas, à part pour un. Qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Toi, ce qui compte, c'est pas
le service de Genève de remonter en première division, c'est important pour eux.
Il y en a un autre qui a des dépendances, il en a plein. Ça s'appelle le Commonwealth. C'est Julien Laurence. Ouais. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bah, puis bientôt, il n'aura plus que ça. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Salut Julien.
Je fais ce que je peux pour retarder le Brexit au maximum. J'organise quelques protestations par ici, quelques votes au Parlement. Donc, je fais le maximum.
Ouais. T'es bien avec Johnson là?
Ah, j'ai un peu de mal avec
avec Bobo,
avec ses idées, sa coiffure.
Il ressemble curieusement à Serge Simon quand même.
La coiffure, ça n'a rien à voir, faut pas déconner. Il pourrait
non,
être
non,
très
non,
mal
mais
coiffé
bon.
Et bon, c'est quand même pas ça.
Il est quand même très mal coiffé.
Mais quand t'es pas, pas bon et en plus mal coiffé,
ouais, en plus, alors là, ça aide pas,
c'est compliqué.
Bon, encore un but chez les espoirs.
Ouais, Zagadou, ça va dire quelque chose à Polo, puisqu'il joue à Dortmund. Voilà, on est normalement dans les dernières secondes. 4-0 pour les Bleus. On s'est un petit peu ennuyé pendant un bon moment. Et puis, dans les 5 dernières minutes, eh bien, ils nous ont mis la bagatelle de 3. Donc, 4-0. Il reste 5 secondes. C'est quasiment terminé. L'arbitre qui va bientôt siffler la fin du match. Match amical, hein, on le rappelle, entre la France et l'Albanie. Prochain match des Bleus, encore amical. Ça sera à 3 mercredi, lundi prochain. Voilà, terminé 4-0. Doublé Johnson Edouard. Le premier but inscrit sur pénalty par Gouiri. Puis, on l'a vécu un instant. Donc, Zagadou qui donne le quatrième but au bleu.
Voilà, de toute façon, ce qui a fait la soirée de Jean Baumel, c'est le défenseur albanais mal au cul. Ça, il ne va pas s'en remettre, Djibo. Bon, vous connaissez notre débat. Vous savez pourquoi vous êtes là, messieurs. On va s'amuser, parce que c'est plus un jeu qu'autre chose.
C'est pas un débat. C'est une discussion café philo.
C'est une discussion café philo, si tu veux.
Bien ça.
Quel est le plus grand pays de football? Alors, ce que je propose, c'est de faire un petit tour de table, d'abord des drôles de dames, que chacun donne son point de vue, avec quelques arguments. En 30 secondes, hein, les gars, hein, on n'a pas le temps de faire une dissertation. Là. Fred.
Ben, je pense que c'est l'Argentine. Parce que je vis dans un pays qui est foot, qui s'appelle l'Espagne. Mais je pense que l'excès qu'il y a en Argentine, il n'y a pas ailleurs. En plus, le football, il y a les excès négatifs. On tue pour le football en Argentine, ce qui n'est pas le cas en Espagne, grâce à Dieu et bien heureusement. Mais aussi, on crée beaucoup de choses en Argentine. Au niveau culturel, le football inspire beaucoup de créations artistiques. Quoi. C'est voilà, tango et football, j'aime beaucoup le tango aussi. Voilà, donc tango et football, ça existe. Voilà. Donc je pense que l'Argentine, c'est vraiment le football à son paroxysme.
Simonet.
Je suis 100% d'accord avec Fred. Moi aussi, je dirais l'Argentine. Déjà parce que l'Argentine, dans le football,
perd ton débat, ça marche bien. Hein.
Vas-y, Simonet. Ah non, mais ils sont d'accord. Ils ont demandé d'accord. Pour une fois qu'ils sont d'accord, c'est de là. Ouais. Vas-y, Simonet.
Dans le football argentin, pour moi, c'est indispensable avoir des joueurs de qualité. Les numéros 10, c'est l'Argentine. Au-delà de Maradona, de Messi, c'est vraiment l'effet que dans chaque équipe, tu dois avoir un numéro 10 qui fait jouer le football, qui a une vision de football, qui va au-delà de la tactique, de la technique. C'est le football un peu l'essence vraie du football. Moi, j'adore un autre type de football qui est plus sur les entraîneurs, la tactique, le travail. Mais je peux pas considérer un autre pays que l'Argentine, même si l'Italie, comme disait Fred pour l'Espagne, c'est un pays qui vit pour le football. L'Argentine est un excès qui rend pour moi le meilleur pays où vivre le football et qui les vit mieux.
Julien.
Moi, je vais peut-être vous être ennuyeux ou vous surprendre, mais je resterai chez moi en Angleterre. Je trouve que pour moi, ce qui est beau, c'est que en quatrième division ou en troisième division, t'es des stades pleins à 20 000 personnes, à 15 000 personnes, qu'un club de quatrième division amène 1000 supporters à l'extérieur qui fassent 500 km en car pour aller voir leur club. Et pour moi, c'est là où tu mesures la passion d'un pays. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe ou dans le monde où t'as ce genre de choses-là dans les divisions inférieures, troisième, quatrième, cinquième division.
L'Angleterre qui a inventé le foot. Attends, là, on est dans le tour d'horizon.
Tour de table.
J'ai pas l'habitude de venir ici.
Ou un tour des téléphones.
Écoute, j'ai vraiment réfléchi à la question. Quand Jérôme m'a appelé, c'est compliqué parce que Fred et Simonet ont parlé de l'Argentine et évidemment, Fred a parlé du tango et je suis un grand amateur de tango. C'est difficile de ne pas citer l'Argentine, mais comme Julien, je vais rester chez moi. Mais non pas pour vendre des titres, des choses comme ça, mais je voudrais juste rappeler, on parle souvent du système associatif, vous savez, opposé aux fonds souverains, aux milliardaires, etc. Je voudrais juste rappeler que dans le monde entier, il y a 22 clubs qui ont plus de 80 000, je vais employer le mot espagnol pour que tout le monde comprenne, quoi, le mot socios, d'accord, c'est Mitglieder en Allemagne. Et sur ces 22 clubs, il y en a 9 qui sont en Allemagne. Il y a 5 Brésiliens, il y a 3 Portugais, il y a 2 Espagnols, il y a 2 Argentins et 1 Mexicain. Pour moi, c'est important. Parce que lorsque je me suis installé en Allemagne, j'étais encore tout jeune, j'avais des cheveux, etc. On dit souvent, si tu veux, que le foot, ça t'apprend la géographie d'un pays. Et ben moi, en observant les clubs, tu vois, j'ai appris l'histoire de l'Allemagne. Et j'ai rarement vu ça dans d'autres pays. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Je rappelle juste que j'ai 7 équipes aujourd'hui en 3ème division qui ont plus de 12 000 spectateurs de moyenne, que en 2ème division j'ai 16 clubs sur 18 à plus de 10 000, il y en a 6 qui sont à plus de 27 000, il y en a 10 sur 18 en Bundesliga qui sont à plus de 40 000, il y en a 6 à plus de 50 000. Si on ne parle pas de ferveur populaire, je ne sais pas ce que je dois chercher derrière. Par contre, ce qui me semble important, c'est que le football en Allemagne est quelque chose évidemment qui a été importé, et c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié par les autorités de l'époque, notamment la Prusse, qui, rappelons-le, rappelait que c'était une maladie de singes anglais. Hein, c'est quand même important. Et c'est quelque chose qui a dû être, notamment par ce qu'on appelait à l'époque les étrangers en Allemagne, qui a été importé en Allemagne, et qui a dû être cultivé, c'est-à-dire qu'il a fallu... Il a fallu que le pays comprenne ce que c'est que ce football. C'est-à-dire que par rapport à d'autres zones géographiques, ce n'est pas naturel. Mais ce qu'ils en ont fait, moi, je trouve ça assez fabuleux. Et okay. Je veux pas être patriotique par rapport à ça. Je sais pas parce que c'est l'Allemagne, mais c'est un truc, moi, qui me marque.
Qu'est-ce qu'il va dire? C'est long, mais c'est brillant.
Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire quand la parole va lui revenir?
Dans quelques instants, l'avis de Daniel, l'avis de Jérôme. Bougez pas, l'after tout de suite. Et puis le vôtre, Daniel au 32-16, et puis celui de Julien Cazard, évidemment. Dans quelques instants, mais pour lui, on sait tous que le plus grand pays de football, c'est Paris.
RMC. Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish.
Huh? Gilbert Bribois.
Ah, ce niveau d'anglais de nos décideurs du football français, Jean-Michel, Jacques, Jeannot. Quand tu gagnes, moi, il me manque. Mmh. Ouais. Julien Cazard nous rejoint, messieurs. Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, on était sur notre petit tour de table. Quel est le plus grand pays de football? Tu vas pouvoir donner ton avis, Julien, aussi. Mais c'était Jérôme Bretagne de parler avant que Daniel prenne la parole.
Écoute, franchement, j'ai eu la chance, déjà à travers ma carrière, mais même après, pour de connaître des joueurs et d'aller dans beaucoup de pays. Sans aucun doute, je te dirais l'Argentine. Après, tout ce qu'a dit Fred, et c'est la réalité. Franchement, il n'y a pas que l'Argentine qui vit pour le football, parce que tout le monde, on parlait de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, la Turquie. J'ai eu la chance d'aller jouer en Turquie aussi. Là, tu me parlais tout à l'heure, tu chambrais Julien, tu disais, son pays de foot, c'est Paris. Franchement, si je devais retenir une ville, je te dirais Istanbul. Parce que Istanbul, c'est incroyable aussi, avec ses clubs là, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Il y a très peu de villes comme ça qui peuvent représenter trois grands clubs qui sont incroyables.
Voilà. Mais tu retiens l'Argentine avant tout quand même.
Et je retiens l'Argentine parce que il y a une ferveur qui est spéciale, Boca, River, c'est pfff.
Daniel.
Ouais, moi je l'ai déjà dit l'autre fois, évidemment c'est l'Argentine, mais il y a pas que la ferveur comme argument, les gens au stade, parce que dans beaucoup de pays tu peux pas te mettre à faire des concours d'affluence au stade. Julien, il peut dire que dans la 3e et 4e division d'Angleterre, les gens
il l'a dit.
Mais c'est pas que à ça que moi je le mesure. C'est à plein d'éléments différents, c'est les écoles de pensée du foot, les différentes façons d'entraîner.
Menotti, Bellardo, enfin, les combats idéologiques.
Ouais. Les combats idéologiques, la pensée, les postes des joueurs qui ont pratiquement été inventés là-bas, le 5, le 8, le 10, toutes ces références-là. Il y a peu de pays où autant d'intellectuels en parlaient de football.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, niveau de la culture, musique,
faisait le lien,
création culturelle.
Galeano, tous les écrivains, tout. Ouais. Le pays entier.
Galeano était uruguayen, je crois.
Oui, mais il écrivait beaucoup en Argentine, il a beaucoup parlé du foot argentin. Le monde intellectuel a été imprégné beaucoup plus vite là-bas que dans les autres pays. Après, évidemment, pour ce qui est de la ferveur, ça compte aussi là-bas, je veux dire, la passion. Bien quoi. Et en plus, effectivement, ils ont Dieu, eux.
Je donne mon point de vue, si vous permettez.
Oui, bien sûr.
Julien d'abord.
Pour couronner le tout, ils ont eu ça en plus.
Mon cher Julien, la parole est à toi dans ce café philo.
La France, monsieur. La France. Non, je l'ai pas tenu longtemps. Non, alors écoute-moi, mon pays préféré de foot, c'est l'Argentine, parce que moi, je suis né avec Maradona au football, donc parce que moi, on a tous un point commun.
Eh oui. Nous sommes de la même année,
même génération, plus ou moins. Ouais. Nous, on a connu de quand quatre. Même. De...
Non, moi, Julien et moi, on est de la même année. Toi, t'es plus jeune.
86 à 98, on voyait pas la France aux Coupes du Monde. Donc, fallait qu'on aime quelqu'un d'autre. Ben oui, pendant 12 ans de notre enfance, on avait pas la France, monsieur. On était à Kikoff, là, au jeu d'ordinateur, j'étais obligé de prendre la Yougoslavie parce qu'elle avait un maillot bleu.
En quelle année?
Oui, monsieur.
En quelle année?
Moi, je suis en 74, monsieur.
D'accord.
Voilà, une grande année.
Exactement.
Voilà. Oui. Et donc, bref, mais moi, alors, pour moi, mon préféré, c'est l'Argentine, mais je sais pas, j'ai envie de dire l'Allemagne.
Je sais pas, c'est un côté syndrome de Stockholm. Ils m'ont fait tellement le cul. Je pense que
à tout le monde, c'est mon grand. À tout le monde. Ouais.
Attention.
Moi, je trouve que l'Allemagne, ils ont tout. Ils ont tout, les Allemands.
C'est un énorme pays de football, évidemment, mais en matière de moi,
en fait, ils ont tous quelque chose.
Je m'intéresse beaucoup à ce qui ont réfléchi au jeu et aux entraîneurs qui ont été donnés au football. Et je suis désolé, on n'a pas cité. Après, il y en a d'autres que tu peux citer, comme les Pays-Bas pour les entraîneurs qu'ils ont donnés.
J'ai pas encore donné mon point de vue.
L'Argentine.
Je vais le donner.
Et en gros, sa mère, l'Italie ont tellement donné à la pensée du football que c'est.
Oui, mais l'Allemagne a tellement donné à l'Argentine aussi.
Ouais. Non,
l'Allemagne a donné. Et du coup, derrière, voilà.
Je te promets que je te laisse parler une seconde.
Tous ces mecs-là.
Mais Daniel, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, l'Argentine est un pays d'immigration. Et la grosse majorité de la migration, en tout cas la base de migration, c'est l'Italie.
Oui, c'est ça, un peu plus de 50%.
Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle en Argentine los Thanos, les Italiens. Donc eux, bien sûr, il y a cette culture-là qui est arrivée par l'Italie.
Non, mais moi, je parlais des entraîneurs, de la façon dont on a mis en place le football terrain.
Non, attends.
Gilbert, la plus.
La différence entre l'Argentine et l'Italie, c'est que l'Argentine a un côté beaucoup plus sentimental pour moi. L'Italie, c'est une passion, mais c'est en Italie, c'est plus une culture pour moi de passion pour voir gagner ton équipe.
Eh ben moi, messieurs,
il y a plus de romantisme en Argentine.
Je vais quand même citer un pays que personne n'a cité.
Voilà, c'est
quand même moi.
Le Brésil, c'est ça.
Bah, évidemment, pour moi, c'est le Brésil. Alors. Il y a des similitudes avec l'Argentine en termes d'interconnexion entre l'histoire du pays et le foot, la démocratie corinthienne, l'influence. Attendez, oui, je vois où je veux dire. L'influence qu'a eu le foot au moment de la dictature, positivement sur la population et tout. Et puis dans le jeu, je veux dire, ces mecs-là ont inventé le dribble, ont inventé quand même des choses extraordinaires dans le foot. Et alors il y a un truc, moi.
Ils ont inventé les artistes, mais pas les intellos.
Alors justement, et je vais y arriver. Mais sauf que pour moi, il y a une grosse différence. Un peu philosophico jeu là entre l'Argentine et le Brésil, c'est que l'Argentine c'est les destructeurs.
Non.
Et le Brésil c'est les créateurs.
Ah non, pas justement le débat en Argentine c'était Menotti Bilardo.
Mais globalement,
il y avait les deux.
Il y a le débat très bien, mais moi j'ai l'impression que ce qui l'emporte,
donc s'il y a un débat c'est plus intéressant.
Ce qui l'emporte dans ce débat,
les destructeurs c'était l'Uruguay.
De mon point de vue, ce qui l'emporte dans ce débat, c'est plutôt le côté destructeur que le côté créateur. Voilà. Et le Brésil incarne une espèce de foot joyeux et positif. Si tu veux,
Gilbert,
que n'incarne pas forcément
dans leur époque. Gilbert, dans leur époque, destruction, c'était donc la domination Bilardo, qui s'est opposée à Menotti, ils avaient Maradona. Donc, c'est vrai que même quand ils ont monté une équipe qui effectivement.
J'ai aussi adoré Romario.
Au milieu, ils avaient Maradona.
Où il y avait Valdano, qui était comme un peu rude aussi.
Bruchaga.
Dernier argument, quand même, pour le Brésil. C'est le rayonnement mondial, c'est-à-dire le palmarès.
Évidemment,
cette espèce de truc qui se dégage, quoi qu'il se passe, de cette sélection, même quand ils chialent et quand ils prennent une tôle.
C'est sûr,
voilà, ils irradient, le Brésil irradient.
Oui,
ce que ne fait pas l'Angleterre sous sa petite pluie, là, et ses petits nuages.
Mais l'Angleterre, il n'est même pas pris en considération.
Je vais, si vous me permettez, parce que j'ai beaucoup réfléchi, je vais. Débattre les arguments et contrer les arguments de Polo et de
l'Argentine non, bien sûr, Polo,
je comprends très bien ce que tu dis, mais sur le nombre de gens, mais l'Allemagne est le pays le plus peuplé, c'est 80 millions d'habitants, c'est quasiment le double de l'Espagne, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de gens qui remplissent.
Mais attention, moi ça se joue pas uniquement au nombre de gens,
parce que Polo disait
t'as vu la taille de l'Argentine.
Parce que l'Espagne, c'est que
le Brésil, c'est plus que l'Allemagne.
Il faudrait calculer, parce que l'argument de Polo qui disait, oui, il y a 8 clubs allemands qui ont autant de sociaux, etc. Mais aussi, c'est normal, mais il faudrait calculer, et ça, je suis nul en maths, le ratio, le pourcentage par rapport au nombre d'habitants.
J'aimerais qu'on accueille Bernard.
Le Pays-Bas est un grand pays de football.
S'il vous plaît, Bernard, lui aussi, un sage du foot. Salut Bernard!
Bonsoir
Bernard. Alors on t'écoute, quel est ton avis à toi?
Ben moi j'ai aimé qu'est-ce que t'as dit à la fin, parce que j'ai écouté un peu les différents avis et j'ai trouvé ça terrible, parce que j'ai entendu l'Argentine, super, j'ai entendu l'Allemagne, sympatoche, j'ai entendu les Pays-Bas, sympatoche, mais bon, à un moment donné il faut arrêter quoi, le pays du football au niveau des joueurs, au niveau du rayonnement des joueurs, de la façon de jouer, la façon de caresser le ballon, les émotions, même quand ils perdent, c'est beau, et ils gagnent aussi. Ils ont gagné,
ils ont gagné les
5 Coupes du Monde.
Bernard
ils ont
gagné
les Coupes Intercontinentales, en veux-tu, en voilà. Et puis les joueurs, quoi, je vais en citer quelques-uns. Déjà, il y a le premier de tous, c'est le roi Pelé. On dit pas le roi Messi, on dit pas le roi Ronaldo, on dit pas je sais pas quoi, c'est le roi Pelé. Ouais. Déjà, à lui, et déjà, ça peut déjà être un et un pays sur le football. Et puis à côté, il y a des soldats comme ça, Garrincha.
Extraordinaire.
Et puis dans Garrincha, et puis dans les années, on va dire, fin 60, début 70, on a Rivellino. On a Tostao. C'est terrible. Tostao.
Non, mais Bernard, en fait, il s'agissait pas. Bernard.
Ça compte, on peut pas.
Non, mais Bernard.
Bien sûr, moi je suis d'accord à 100% avec toi,
Bernard, en fait, c'est. Des pays qui sont même récents, les Pays-Bas, avant 70. Et l'Ajax, zéro, ils n'ont jamais rien gagné.
Non, mais on n'a pas parlé de l'Ajax, de toute façon.
Personne n'a donné le débat, mais attends, excuse-moi,
c'est un grand pays de foot.
Excuse-moi, Bernard.
Tu n'as pas l'antériorité historique d'autres.
Bien entendu, et les Pays-Bas, pour être un si petit pays, ce qu'ils ont apporté au football mondial.
Tu ne peux pas dire que ce n'est pas un pays de foot.
C'est un grand pays de foot. Et un pays qui, intellectuellement, au niveau de la culture du jeu, a laissé une trace.
Et tu vois, si on s'arrête juste sur la culture du jeu et cet aspect-là, tu peux aussi considérer la Tchécoslovaquie.
Ah, mais complètement d'accord.
Et la Yougoslavie, tu peux considérer l'URSS,
il a ri à un certain moment. Excusez-moi.
Le football en URSS a toujours été secondaire. Mais Bernard, je comprends parfaitement les joueurs, les artistes brésiliens. Mais ceux qui ont. Il n'y a pas eu de dimension intellectuelle au Brésil. C'était juste.
Émotionnel.
Les mecs émotionnels. Tu vois, c'était.
Socrates, quand même, Daniel.
Non mais d'accord, mais parce qu'il y a des implications politiques, mais il y a eu, alors évidemment que l'esthétique ça doit compter absolument, bien sûr, mais c'est unidimensionnel le Brésil et le football. L'Argentine, il y a un côté émotionnel, romantique, de malheur et de joie en même temps. Il y a plus de richesse en fait, c'est ça, et au final plus de passion. Au Brésil, t'as l'impression que c'est du football avec le sourire. C'est de la joie et du soleil. Alors, Daniel, c'est extrêmement important, évidemment. Mais il y a.
Parce que c'est la base, quand même.
Bien sûr.
Il y a une seule dimension dramatique en Argentine.
Simonet, ensuite Julien.
Moi, je suis pour l'Argentine, mais il faut dire que si on doit considérer les dramatiques du Brésil entre le Maracanazo et les 7-1 à domicile de l'Argentine face à l'Allemagne, tu as eu des drames énormes au Brésil. Très mal à niveau, si on considère le Maracanazo, les suicides.
Surtout celui-là, derrière, celui-là est marquant.
L'Uruguay, celui-là, effectivement.
C'est vrai qu'il y a un côté dans la douleur argentine, même si on pense à tout ce qui s'est passé en 78, la Coupe du Monde pendant la dictature. Il y a des malheurs qui sont, je trouve, plus continuatif dans l'histoire de l'Argentina, à côté de la beauté, des victoires et des grands joueurs qu'il y a eu, qui font en sorte que ces côtés émotionnels,
et puis les joueurs,
bien et mal,
aussi,
un jeu des mondes, c'est continuatif.
Une quantité de joueurs énormissime.
On n'a plus entendu Julien Laurence depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux apporter ton écho au débat?
J'ai un truc contre Julien.
Non, simplement sur les entraîneurs. Entre Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Bill Paisley.
Non, mais ils n'ont rien apporté à l'histoire du foot, ces gens-là. Ils sont très très importants, mais ils n'ont pas.
Ils n'ont rien apporté à l'histoire du football.
Non, bah alors attends.
Bah, Sam Allardyce, il a amené un truc.
Pardon, pas l'histoire du foot. Ce sont des chapitres évidemment importants de l'histoire du foot. Mais ce sont des aventures humaines. C'est pas des gens qui ont, sur le jeu, apporté une réflexion, une construction différente, une façon de voir, de changer de
poste. C'est quand même les Anglais qui ont inventé le truc.
C'est parce que la culture est différente.
Ils ont codifié.
Codifié les règles et tout.
Après, Julien,
d'un point de vue du jeu, les entraîneurs anglais
ont. D'ailleurs, on devrait tous les remercier parce que maintenant qu'on nous décodifie tout aujourd'hui, on est les premiers à pleurer. Donc là-dessus, les Anglais,
Julien, s'ils avaient toujours besoin des Écossais,
il y a quelque chose que tu as dit. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans les petits clubs en Angleterre, mais tu sais très bien et mieux que quiconque qu'il y a très peu de clubs en Angleterre. C'est-à-dire que quand tu vois le maillage de clubs, on en parle avec Jean, rien qu'en Île-de-France et dans toute la France, en Espagne, le nombre de tout petits clubs qu'il y a et qui attirent 50, 100, 150 personnes. Tu sais très bien qu'en Angleterre, il y a très peu de clubs comparés aux autres.
Ça, c'est plus mal, après tout.
Non, je trouve ça très bien, mais c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup de monde en 4e division.
Ouais, voilà,
parce qu'il n'y a pas division d'honneur, il n'y a pas le truc de district, etc. Si. Donc, c'est vrai. Si. Et puis
Julien, Fred, à tort.
Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai raison.
Non, bah non, il y a une division d'honneur, il y a.
Mais tu sais très bien qu'il y a très peu de clubs en Angleterre par rapport à tous les clubs qu'il y a en France, par exemple, ou en Espagne. Il y a des mini clubs de quartier, etc. Il y en a pas en Angleterre, quasiment pas.
Moi, j'ai un truc à dire.
T'as des ligues le dimanche, t'as des ligues le samedi, t'as des ligues partout.
Ouais, mais pas autant.
Il y a un truc qui m'énerve toujours. J'ai pas beaucoup changé depuis 2009, d'ailleurs. C'est ce côté que l'émotion est réservée aux latins. Vous savez, moi, il y a quelques années, pour chambrer Daniel et ça, j'ai appelé ça les latins crétins, tu sais, pas les latins crétins, les latins crétins, quoi. Ça m'énervait parce que la beauté, elle est forcément latine. Je rappelle quand même que.
Oui, pour les anglo-saxons,
la beauté et l'émotion.
À Lyon, en 98.
Après, vas-y, Polo.
C'est le côté dramatique de l'émotion qui est latine.
Oui.
On en fait trop.
Ouais.
Ça vient de la romantique.
C'est réservé, tu vois. C'est un peu comme même les mecs qui se disent d'extrême gauche, ils vont forcément chercher en Amérique latine. Tu vois, Karl Marx, il est sûrement né au Mexique, quoi. Mais c'est.
Trotsky est mort au Mexique. Laissez finir, Polo.
Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, en 98, lorsqu'il y a eu, comment le football est imprégné dans la société, lorsque l'Allemagne se fait éliminer, par la Croatie en 98, donc à Lyon, les journaux allemands, et notamment le journal Bild, titrent plus jamais champion du monde, plus jamais champion d'Europe. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que leur société ne va pas bien. Mais ça, on le lit pas, ça, en France. On espère t'expliquer, parce qu'on n'est pas toujours avec un porte-voix en train de dire, ah, nous, on est en train de pleurer, quoi. Et ça, c'est un petit peu ce qui m'énerve, si tu veux, dans cette façon, toujours, de voir le football, qui est forcément du sud de l'Europe, par rapport au nord de l'Europe, qui peut-être, du fait que ce sont des pays quand même où il fait relativement froid, notamment en hiver, où on a une façon de s'exprimer qui est un petit peu différente que l'exubérance qu'on peut voir et qui est nécessaire d'ailleurs, des pays latins. Donc moi, c'est ces choses-là. Bon,
l'argument
si tu veux,
est parfaitement recevable.
Alors, non, mais moi, je vais même plus loin dans l'argument. C'est qu'il y a un truc qui nous influence tous, et Julien, je te donne la parole après. Oui. C'est quand on est gamin, qu'on regardait le foot à la télé, même si pour certains d'entre nous, c'était en noir et blanc. C'est-à-dire que un stade au soleil avec des joueurs tu vois avec un maillot jaune ou rayé bleu et blanc oui ça t'interpelle plus quand t'es gosse qu'un truc un peu plus froid comme nous le dit Polo. Non, c'est pas anodin,
c'était pas tant la question, c'était vraiment que les Allemands t'avais toujours l'impression qu'effectivement il y avait sous le maillot il y avait pas le cœur.
Oui, mais parce que nous c'est lié à notre histoire avec la l'histoire franco-allemande, ça.
Pourquoi, parce que nous notre génération, le premier grand match de notre vie, c'est Séville 82 et Schumacher sur Baptiste,
évidemment. Ça moi quand j'ai moi, j'ai pas nié la dimension extraordinaire de l'Allemagne dans le football. J'ai essayé d'expliquer pourquoi l'Argentine. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas vraiment un débat. C'était la sensibilité de chacun.
Voilà, c'est
pour ça que je reçois parfaitement l'argument de Polo. Je l'écoute. Il me fera pas changer d'avis, mais je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Il a raison de le dire. Mais l'Argentine m'a toujours énormément touché pour cette
dimension. Faut que t'amènes Polo en vacances en Espagne. Dans un endroit, il fait pas trop chaud.
Ah oui, ouais. Ouais. La Galice, tu sais de.
Moi, ce qui me choque, c'est que je suis progressiste et personne n'a cité l'Algérie. Vous cherchez les ennuis. Moi, je veux pas d'ennuis sur Twitter. C'est quand même le plus grand pourvoyeur de supporters du Real et du Barça, quand même. Tu le sais.
C'est
le Maroc. Voilà. Ah, c'est donc voilà. Donc s'il vous plaît, je voudrais qu'on cite l'Algérie au moins pour pas avoir d'emmerde.
Ah oui, non mais c'est le Maroc.
Donc voilà. Voilà, c'est fait.
Le Portugal, non, tu voulais pas passer le Portugal.
Je m'en branle. Eux, ils sont pas chiants. Ils sont pas sur Twitter. Ils ont pas Twitter.
C'est pas un beau pays de football.
Pourquoi t'es sur Twitter, toi, maintenant?
Bien sûr!
Tu sais que je suis revenu, moi.
Mais c'est pas vrai!
Mais oui!
Mais dis donc, t'es pas une connerie près, dis donc.
on m'a dit, il y a Daniel qui s'en va. Bah, je reviens, là.
Alors, quelques réactions sur Direct Studio, messieurs, liées à ça. Alors, c'est plutôt le Brésil qui revient de façon assez massive, hein, parmi les réactions des internautes, là, oui, sur Direct Studio.
C'est une réflexion un peu plus primitive.
Il y a quelques blagueurs, comme Florent qui nous dit, non, j'ai eu quelques arguments, comme c'était pas tout à fait primitif. Florent nous dit la Grèce 2004, magnifique les gars, ne les oubliez pas. Puis on insiste sur la connexion Simonet entre Italie et Argentine.
Ah, bien sûr.
Bah, bien sûr.
Bah, bien sûr, même le club de Boca Juniors, c'est un club d'origine italienne. Donc, en vrai, en force de dire ça, j'ai presque envie de changer mon avis et dire à l'Italie, parce que au final, oui, c'est nous qu'on a été les pères de l'Argentine. On a vécu tout dans les footballs italiens. On a vécu les histoires, les victoires sous les régimes fascistes. Ah, donc,
si
les
tu parles de vision dramatique, émotionnelle, intellectuelle, oui, l'Italie est au même
l'Italie
titre que l'Argentine, évidemment.
L'Italie a eu un football évidemment qui est né comme représentation du pouvoir et après ce que avant d'être un sport populaire, il a vécu des dépressions. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé après l'accident des Superga, la dépression totale du foot italien qui a perdu la meilleure équipe, qui a perdu l'équipe nationale, qui a imaginez que c'était tellement un drame que tout le monde avait peur de prendre l'avion en Italie. Derrière ça, quel sentiment populaire qui a fait vivre les footballs derrière. La renaissance, jusqu'à arriver à être les meilleurs pays du monde pour presque 20 ans, bien sûr, avec aussi l'aide de nos amis anglais qui étaient dehors de compétition européenne. Une autre dépression, mais après être devenu champion du monde en 2006, des révolutionnaires politiques, on peut dire, du football, comme Arrigo Sacchi, ou encore des champions, mais des champions extraordinaires, pas seulement des attaquants, parce que l'Argentine, on peut dire, oui, les plus grands joueurs sont des attaquants, des milieux de terrain. L'Italie a eu des grands joueurs, des énormes joueurs, peut-être entre les meilleurs joueurs du monde à tous les postes.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment un pays qui est total du football. Et au-delà de ça, tous les débats qu'on fait sur l'Argentine, c'est vrai, il y a
Simone,
derrière tout ça.
Un pays n'a pas été cité et Benita veut le défendre. Benita, bonsoir.
Edermel, est-ce que tu es là?
Oui, oui, salut Benita.
Edermel, mon ami.
Benita.
Excusez-moi.
Ah oui. Mais attends, tu cries les buts comme un commentateur argentin, là, hein,
qui s'est coincé les couilles dans le piano.
C'est pas grave, c'est pas grave. Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter. C'est pas l'Argentine. Il faut arrêter. Non, je vais le voir le match de l'Espagne ce soir. La arrêtez, Catalogne, s'il vous plaît. Non, non, mais Sergio Busquets, je t'aime. On dirait que tu ne peux pas lui dire.
Donc tu dis que c'est quoi, toi, alors, Benita?
Bah, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Espagne, je pense que Fred Hermes sera avec moi, en fait, ils ont cette capacité à avoir un collectif, même quand le match ne va pas bien, même quand ils sont menés, super, même quand ils sont face à une équipe qui sont au-dessus d'eux, ils ont un collectif que les autres n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à jouer ensemble.
Mais ça, c'est pas notre débat, Benita, parce que là, on est sur l'Espagne actuelle, voilà. Après, je vais pas te dire, j'y vis depuis 26 ans, que le foot, je veux dire, il y a un débat sur une loi très importante au Parlement, il y a Madrid-Barça. Bon, ben, le débat, il s'arrête parce qu'ils vont aller voir le Madrid-Barça. Ça oui, mais je pense que dans la dimension dramatique, intellectuelle, excessive, l'Argentine est au-dessus de l'Espagne.
En fait, l'Espagne aurait peut-être droit de citer si on parlait de l'histoire des clubs.
Ça oui.
Quoique encore, il pourrait y avoir débat.
Mais c'est vrai que le club le plus connu au monde, c'est le Real Madrid. Mais là aussi, je vais dire quelque chose. Qui change le Real Madrid? Qui place le Real Madrid sur la carte? C'est un Argentin.
C'est
Di Stéfano. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé avec Paco Rento. Paco Rento, c'est le seul joueur aujourd'hui qui a gagné 6 Ligues des Champions. Ce qu'on appelait la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Et il disait... Et les joueurs, un jour Paco Rento nous disait que quand Di Stéfano arrive au Real, il ne savait pas ce que c'était qu'un 1-2. Ça arrive d'Argentine. C'est-à-dire qu'il explique, c'est lui qui a introduit le 1-2 en Espagne. C'est lui qui a introduit le respect de l'alimentation, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit pas boire, etc. Mais c'est-à-dire que il était déjà très très avancé et ça vient d'Argentine. Et c'est lui qui crée la légende du Real Madrid, puisque le Real Madrid gagne les 5 premières Coupes d'Europe de l'histoire. Donc, oui, dans les clubs, c'est un truc hallucinant. Mais là aussi, il y a une influence argentine terrible à travers un homme qui était Alfredo Di Stéfano.
Qui veut rajouter un mot avant de conclure?
Gilbert, je peux prendre 10 secondes ou pas?
Bien sûr, Polo.
Bon, n'oublions pas aussi que c'est toujours l'image de l'Allemagne. Lorsqu'ils gagnent la première Coupe du Monde en 54, tout le monde s'attend que ce soit la Hongrie, le Puskás, qui l'emporte. En 74, tout le monde est pour les Pays-Bas et c'est les Allemands qui l'emportent. En 90, c'est une Coupe du Monde qui est très moyenne en Italie et c'est l'Allemagne qui gagne. C'est-à-dire, en 2014, Simone a très bien rappelé la demi-finale contre le Brésil, mais les Allemands vont quand même remporter pour la première fois une équipe européenne sur un continent américain. C'est un truc. Ils ont aussi quasiment tous les records comme les Brésiliens, mais ils ont toujours une forme de légende noire. Et cette légende noire, en plus en France, vu le passif qu'il y a entre les deux pays, même si je trouve que ça a tendance à s'atténuer, c'est pas évident d'expliquer le truc. Mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Fred sur le Real Madrid, parce que c'est important ce qu'il dit, les filiations. Paul Breitner a joué 3 ans au Real.
Attends.
Il est revenu en Allemagne. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait en Allemagne, notamment au Bayern? Il a tout piqué les idées du Real.
Alors, donc je vais te dire un truc. Tu sais que quand on parle de Paul Breitner en Espagne, on dit il a structuré, il a aussi aidé à structurer le Real. Au niveau de la compétitivité, il a beaucoup apporté à apporter une sorte de rigueur qu'il n'y avait pas dans ce pays latin, tu vois. Donc
il y avait parce que Paul Breitner à l'époque était encore défenseur et c'est le Real. J'ai oublié le prénom d'ailleurs, le nom de l'entraîneur de l'époque qui le replace au milieu défensif et c'est comme ça qu'il va refaire sa carrière en étant notamment le meneur de jeu de l'équipe d'Allemagne en 82. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est toujours aussi ce côté légende noire qu'on veut pas. Et moi, je peux t'assurer, quand tu dépasses ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais ce débat, il est, moi, je le trouve beau. Je te dis, je vous remercie de me permettre d'en parler, parce que la question pour moi, elle est pas savoir si c'est l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, le fabuleux football anglais. Donc ça, c'était avant la Première Ligue, évidemment. C'était
évidemment
l'Italie qui est sûrement le pays que je préfère le plus, d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est les questions de jeunesse. Mais voilà,
c'est un petit côté latin quand même qui des fois s'exprime en toi.
Pardon ?
T'as un petit côté latin quand même qui s'exprime en toi quand même.
Ouais, tu trouves ?
Bah là, tu viens de nous dire que tu aimes bien l'Italie.
Faut le trouver. Et
l'Italie, c'est merveilleux. Enfin, ceux qui ont connu le championnat italien des années 90, c'est un truc extraordinaire.
Ah bah oui, Lothar Matthäus, Andreas Bremer, Jorgen Klinsmann.
L'Inter, c'est les Néerlandais.
Bognac,
Oliver Piros.
C'est dépendant de l'Allemagne, des fois, donc.
Oh, le nord de l'Italie, quand même, quoi.
C'est le nord de l'Italie.
Messieurs, on va s'arrêter là. C'était super. Merci à tous. Merci Polo. Merci Julien.
Merci
Simonet. Merci. Bye bye. Dans quelques instants, Julien qui va prendre la parole. Il veut parler de l'équipe de France. Fred reste avec nous.
Oh oui, bien sûr.
Moi, Fred, ça fait un choc. Tu fasses le quiz.
Ah oui.
Fred Hermel dans le quiz, ça peut être légendaire. Attention.
Après la pub, on parle un peu du quiz.
À tout de suite.
J'ai gagné un point grâce à.